France Inter.
D'après la définition que l'économie classique donne, cette définition est absurde. Pour être rationnel, il faut être tout à fait logique en tout. Il faut avoir des croyances qui sont cohérentes et des désirs qui soient cohérents pour tout. Et ça, c'est bien sûr que c'est impossible.
Attention, géant de la pensée économique, c'est Daniel Kahneman qui met en pièce le mythe de l'homo economicus et ça a de grandes conséquences. Daniel Kahneman est mort cette semaine à l'âge de 90 ans. C'est l'occasion de vous dire un mot de ce prix Nobel d'économie israélo-américain qui n'a jamais suivi un cours d'éco. Ce qu'il a apporté à la matière, c'est la psychologie, sa véritable spécialité. Il a contribué à nous faire prendre conscience des limites de notre libre arbitre. Nos décisions sont sous influence, oui, nos intuitions sont parfois très mauvaises car elles sont biaisées. Tout dépend de la manière dont on nous présente les choses, du chiffre qu'on nous met en lumière, ça c'est le biais d'ancrage. Il y a aussi l'effet de halo, l'effet de cadrage. Et puis, il y a ce que Kahneman définissait comme le moteur du capitalisme, le biais d'optimisme. Celui qui touche les PDG, les ministres, comme les généraux, c'est la confiance exagérée en son succès. Lorsqu'il participe à mettre à terre l'homo economicus, Kahneman secoue plus les Américains que les Européens. Il s'en prend à cette idée racine des politiques publiques aux États-Unis. Les citoyens sont des individus responsables de leurs décisions, rationnels, et donc ils doivent vivre avec les conséquences. Eh bien, ce n'est pas la pensée européenne, celle qui a donné naissance à notre modèle social, notre système de retraite par exemple. Il y aurait encore énormément à dire et à lire au sujet de Daniel Kahneman. Vous pouvez aussi l'écouter sur le site de France Inter. L'interview qu'il a donnée à On n'arrête pas l'écho, c'était le 27 octobre 2012. Et derrière la simplicité des mots, dans un français parfait, vous trouverez l'un des entretiens qui m'a le plus marqué.
On n'arrête pas l'écho. Alexandra Ben Saïd sur France Inter.
Alors on me demande pourquoi il parle un aussi bon français. Sa famille a quitté la Lituanie dans les années 20 et il a vécu à Paris jusqu'à l'âge de 8 ans. Sous l'occupation allemande. Bienvenue, c'est votre magazine d'économie. Nous sommes ensemble jusqu'à 10h. L'équipe a le sourire en régie. Céline Hila, la réalisatrice. Valentin Pérez, qui prépare cette émission avec moi. Baptiste Coulion signe le mixage. Et Benjamin Wagon à la main sur la console. L'invité de ce samedi 30 mars, c'est le PDG de Thales, un fleuron du CAC 40, une entreprise française de technologie et de défense. Après le vol de données à la Fédération française de foot, à France Travail, interview sur les cybermenaces et puis aussi sur l'intelligence artificielle appliquée à l'armement. Il y a 48 heures, Thales a annoncé un coup d'accélérateur. Entretien avec Patrice Ken vers 9h40. Lorsqu'il s'agit de nos données, l'IA est-elle d'abord une menace ou une protection? C'est la question qui agite les experts de la cybersécurité au sujet de l'intelligence artificielle. Ces experts étaient réunis à Lille cette semaine. Vous entendrez le reportage d'Anaël Verzou. Et puis comme chaque dernier samedi du mois, on met l'écho à la page, nous avons rendez-vous avec Christian Chavagneux. Bonjour Christian.
Bonjour Alexandra, bonjour à toutes et à tous.
Vous êtes venu avec vos notes de lecture, Christian, ce mois-ci, qu'est-ce qu'on lit ?
Eh bien, je vais vous faire découvrir qui est Alice Rocock et puis je vais vous raconter une histoire, comment un bon petit gars militant Les Républicains, sorti de Dauphine bien propre sur lui, est devenu militant CGT.
On se retrouve juste avant 10h pour vos conseils de lecture alors. Mais d'abord, l'annonce de la semaine, le Premier ministre veut un nouveau tour de vis sur l'assurance chômage. Apparemment, Gabriel Attal a au moins une piste privilégiée, pourquoi pas réduire la durée d'indemnisation. Une nouvelle réforme donc, mais pourquoi? Ça c'est le débat ce matin. Et je salue Marc Vigneault du quotidien L'Opinion. Bonjour Marc.
Bonjour Alexandra.
Le correspondant à Paris d'El Periodico est aussi avec nous. Salut Henrik Bonnet.
Bonjour Alexandra.
El Periodico, c'est le grand, un des grands.
Un quotidien basé à Barcelone.
Catalan donc. Une nouvelle réforme de l'assurance chômage pour les Français est-elle justifiée? C'est notre débat.
D'abord, je vous le dis, oui, il y aura une réforme de l'assurance chômage cette année.
Gabriel Attal, Premier ministre.
Il y a trois grandes familles de paramètres possibles. Vous avez la durée d'indemnisation. Aujourd'hui, jusqu'à 18 mois. Une des pistes, c'est de réduire cette durée d'indemnisation de plusieurs mois. Je ne pense pas qu'il faille que ça aille en dessous de 12 mois. Ensuite, dans le deuxième paramètre, vous avez le temps qu'il faut avoir travaillé pour pouvoir bénéficier du chômage. Et le troisième levier, c'est celui du niveau d'indemnisation du chômage. Combien vous touchez quand vous êtes au chômage? C'est une des pistes qui a moins ma préférence.
L'obsession du gouvernement pour les privés d'emploi vire maintenant aux troubles obsessionnels. C'est clair, il y a de très bons psychiatres, je recommande au gouvernement.
Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT.
Parce que ça s'inscrit en dehors de toute rationalité économique. Il n'y a aucune étude économique qui démontre qu'en tirant les droits des privés d'emploi vers le bas, on crée de l'emploi. Au contraire, on force à accepter n'importe quel emploi et on tire les salaires vers le bas. C'est pour ça que ces annonces sont un problème pour l'ensemble des salariés, pas seulement pour les privés d'emploi.
Je crois qu'on a une vision totalement différente, Sophie Binet et le gouvernement.
Catherine Vautrin, ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités.
Sophie Binet est dans une logique où on laisse les gens dans la situation du chômage de masse. Le pays crève du chômage de masse.
Nous avons baissé la durée d'indemnisation du chômage. Le chômage a chuté en même temps.
Philippe Trénard, professeur au Conservatoire National des Arts et Métiers.
Nous sommes à 7,5% en France de chômage aujourd'hui. Et 7,5, c'est un niveau bas historique. Un niveau bas historique pour la France.
Ce qu'il manque dans la prise de parole du Premier ministre, c'est quelque part ce qu'on pourrait qualifier d'un plan stratégique.
François Asselin, président de la Confédération des petites et moyennes entreprises.
À l'échelle de ce qu'il faut faire pour le pays, oui, c'est une petite mesure, comme la réforme de retraite que nous avons, nous, accompagnée, eh bien, est une réformette, disons les choses telles qu'elles sont.
C'est toujours sur les mêmes qu'on appuie.
Dominique Corona, secrétaire général adjoint de l'UNSA.
Je vous rappelle qu'il y a eu déjà une grosse réforme de l'assurance chômage qui est en train de se mettre en place là. La dette, on le fait payer toujours aux plus pauvres. C'est inacceptable, c'est pas du en même temps ça.
Alors je vous assure que ça réagit très fort en studio avec mes deux débatteurs en écoutant le zapping de Valentin Pérez et Céline Hila. Alors, avant de commencer votre débat, Henrik, Marc, je vais me tourner vers vous Marc. Il faut faire ce qu'on fait toujours, hein, le film, la photo. Depuis 2017 et l'arrivée d'Emmanuel Macron à l'Élysée, on en est à combien de réformes d'assurance chômage?
Alors c'est un peu difficile, ça dépend comment on compte, je vais vous expliquer pourquoi, c'est 3 ou 4. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Emmanuel Macron, quand il arrive au pouvoir, il a déjà été secrétaire général adjoint de l'Élysée et il a déjà été ministre de l'économie. Et lui, qu'est-ce qu'il constate avec François Hollande et qui l'énerve beaucoup, c'est que quand François Hollande, à ses yeux, écoute beaucoup trop la CFDT et donc ça aboutit à des accords qui sont toujours mi-chèvre, mi-chou, mi-figue, mi-raisin. Et en fait, ça ne sert à rien. Les accords de maintien de l'emploi de 2013, il y avait eu 4 accords, je crois, à la fin, ou très peu, et ça n'avait servi strictement à rien. Donc quand il arrive au pouvoir, il se dit, moi, je vais reprendre la main sur les partenaires sociaux et je vais faire un peu les réformes que j'ai envie de faire. Et donc, c'est ce qui a présidé en juillet 2018, hein, assez vite, quand il est arrivé. Il dit, maintenant, c'est l'État qui fait une lettre de cadrage. Vous avez toujours, les partenaires sociaux, la prérogative sur les règles de l'assurance chômage. Mais je vous fixe le cadre financier et puis je vous définis les objectifs de la réforme. Et si ce n'est pas conforme à ce que je vous ai demandé, je reprends la main. Mmh. Et donc là, c'est exactement ce qui est en train de se passer alors que les partenaires sociaux venaient de négocier un accord précédent. Donc c'est vraiment un système un peu hypocrite où on dit c'est les partenaires sociaux qui ont la main, mais en fait c'est une espèce d'étatisation rampante de l'assurance chômage. Et cette étatisation rampante ne satisfait personne puisqu'elle n'est pas clairement assumée. Et donc les partenaires sociaux disent on est toujours légitime à décider des règles. Le financement n'a pas été totalement changé puisque l'assurance chômage, vous le savez, est financée par des cotisations. Et donc bref, il a repris la main sur l'assurance chômage par ses lettres de cadrage et après il a imposé plusieurs réforme, un renforcement du contrôle des chômeurs et modification du contrôle des chômeurs et puis surtout une réforme qui incite à reprendre un emploi quand on alterne des contrats courts et qu'après on pouvait être indemnisé. Donc ça c'est la réforme du SJR et puis après il a imposé une baisse de la durée d'indemnisation pour faire très 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 rapide.
Non mais on fait ce film en effet rapidement. Henrik Bonnet, vous avez suivi tout ça avec vos yeux de correspondant espagnol basé à Paris. Qu'est-ce que vous pouvez ajouter peut-être à ce film?
Donc, ce que je peux ajouter, c'est que ces réformes, elles me rappellent beaucoup à celles qui ont été menées en Espagne, mais il y a une dizaine d'années. Notamment en 2012, le gouvernement conservateur de Mariano Rajoy, il avait décidé de réduire les droits de chômage. Notamment, il avait baissé de 60 à 50% les taux par rapport auquel on calcule l'indemnisation chômage, par rapport au salaire. Et à l'époque, ce qui est intéressant, c'est que les discours du gouvernement espagnol de l'époque, c'était les mêmes que les discours du gouvernement français actuel. C'est-à-dire, on disait, on va réduire les droits des chômeurs et ainsi, on va encourager la recherche d'emploi.
Mais qu'est-ce qu'on a observé? Et donc, il avait réduit le taux de remplacement. C'était quoi qu'il réduisait, pardonnez-moi?
Ils avaient fait qu'à partir de la moitié, à partir des sixième mois, qu'un chômeur il touchait son chômage, au lieu de gagner 60% par rapport à son salaire, il touchait 50%.
D'accord.
Donc il avait accentué la régressivité des indemnisations. Mais ce qu'on observait à l'époque en Espagne, c'est qu'en 2012, le taux de chômage en Espagne il était extrêmement élevé. Hein. Rien à voir avec la situation actuelle en France. Il était 24%. Mais il a continué à augmenter jusqu'à 26% en 2014. Et ce qui est intéressant à l'époque, c'est que l'Espagne traversait une crise économique très importante, plus importante que la France. Mais maintenant, la réforme actuelle, contrairement aux réformes précédentes citées par Marc, c'est une réforme pro-cyclique. Laquelle va être approuvée dans un moment de ralentisation économique. Et moi, personnellement, cela ne m'étonnerait pas du tout que la France puisse terminer cette année avec un taux de chômage légèrement supérieur à l'actuel de 7,5, qui s'augmente notamment parce que l'économie est en train de se ralentir, comme ce qui s'était passé en Espagne entre 2012 et 2014. Et la courbe de chômage en Espagne a commencé à baisser à partir de 2015, quand il y a eu la croissance économique, ce qui n'est pas le cas maintenant en France.
Marc Vigneault.
Pardon, mais ça n'a pas grand-chose à voir, parce que comme vous l'avez très bien décrit, le taux de chômage en Espagne n'avait rien à voir. On était dans une crise extraordinaire de la demande, avec une désinflation compétitive. Enfin, c'était vraiment pas du tout le même contexte. Là, en France, on a un taux de chômage, on voit bien qu'on a du mal à passer en dessous, même quand on est dans une bonne conjoncture. Donc, effectivement, le gouvernement va à l'inverse de son principe de contracyclicité, c'est-à-dire
qu'il revient vraiment sur ce qu'il a dit, là.
Mais sauf que, en fait, le principe de contracyclicité, ce qui est inscrit dans la loi, c'est que c'est à partir de 9% qu'on allonge l'indemnisation du chômage. On est tombé aux alentours de 7,2, on est à 7,5. La contracyclicité, ça n'a jamais été de réagir aux mini soubresauts du chômage. Ça n'a jamais été ça. Qu'il veuille serrer la vis de la contracyclicité et dire on s'est trompé, on voulait il aurait fallu aller plus loin quand le taux de chômage est autour de 7,5%, mais il aurait peut-être fallu le dire avant, et on voit bien qu'ils s'adaptent aux circonstances. Donc effectivement là ils reviennent sur leurs paroles, mais en fait l'argument inverse de dire ah le chômage augmente donc la contracyclicité voudrait qu'on allonge, non, le taux de contracyclicité ça a été fixé à 9% de chômage. Et en tout cas c'est un peu l'argument sous-jacent, c'est de dire donc effectivement le gouvernement aurait dû fixer des seuils différents au départ, etc. On voit bien qu'effectivement, il y a une question d'opportunité politique, bien sûr, on y reviendra, et puis d'opportunité économique. Il se dit, justement, puisque le chômage est amené un petit peu à remonter, mais de façon progressive, et que la conjoncture, on n'est pas en récession, là, hein, on est à 0% de croissance, et le gouvernement espère qu'au second semestre, ça va redécoller.
Mais donc, Henrique,
il se dit,
ouais.
Pour contrer un peu cette tendance, un de mes multiples leviers, c'est de réduire la durée d'indemnisation du chômage, qui n'est, comme vous l'avez bien souligné, bien supérieure à ce que vous disiez à l'époque sur l'Espagne. Et quand on regarde en Europe, c'est une durée d'indemnisation qui est parmi les plus généreuses. Et il faut regarder d'autres paramètres. Un spécialiste de l'OCDE, qui Stéphane Carcio, qui explique ça. C'est qu'on a une durée qui est encore très généreuse.
Alors, le système en Espagne, il est, par rapport à, pour faire un exemple, une comparaison.
Oui, le système en Espagne, il est moins protecteur que les Français. Et on a besoin, par exemple, si on travaille une année, on a juste le droit de 4 mois de chômage, ce qui est très peu. Mais par exemple, malgré le fait d'avoir un système moins protecteur, on a plus de chômage qu'ici. Là-bas, on est à 11,6 chômage,
ouais,
alors qu'en France,
7,5.
Et par exemple, c'est intéressant qu'il y a des pays en Europe où on a, lesquels souvent, on oublie toujours, parce qu'on parle toujours de l'Allemagne, mais on oublie toujours, par exemple, un voisin du nord de la France, qui c'est très intéressant, c'est la Belgique, avec un système de chômage très protecteur, presque aussi protecteur que la France, où on a le droit de jusqu'à 48 mois d'indemnisation chômage et qu'il a un taux de chômage inférieur à celui de la France, de 5,5. Donc beaucoup d'économistes, même il y a 2 ans, ici dans cette antenne, Esther Duflo, prix Nobel d'économie, elle disait qu'il n'y a pas de preuves scientifiques qui explique que le fait de réduire les droits des chômeurs s'encourage la recherche d'emploi. Ce qui nous montre que finalement, on est face à une réforme. Moi, je trouve très idéologique et très politique, qui s'explique surtout par les contextes électoraux et politiques actuels.
Et peut-être avec beaucoup, aussi des économies à la clé.
Ça dépend beaucoup de l'état du marché du travail. Et comme je disais, il faut regarder tous les paramètres, parce que je crois, il faudrait vérifier, mais dans beaucoup de systèmes, en fait, vous avez droit à des durées d'indemnisation très longues, mais quand vous avez travaillé très très longtemps, c'est-à-dire qu'en France, ça va très vite, on cherche ses droits beaucoup plus vite qu'ailleurs, donc les systèmes sont absolument pas comparables.
Marc,
et pour le coup, moi, je m'appuie
inciter...
sur un spécialiste du marché du travail qui vous dit, les incitations au retour à l'emploi, ça marche évidemment quand quand la demande est déprimée, ça ne marche pas. Donc il faut évidemment adapter ce genre de réforme, mais dire il n'y a aucune incidence de l'incitation au travail, ça veut l'argument de certains qui est de dire on stigmatise les chômeurs et on dit que c'est des feignants. Ce n'est absolument, enfin, il faut chercher des déclarations. Est-ce qu'il y a des gens qui disent ça? En tout cas, si c'est le cas, c'est complètement faux. Mais quand on vous dit que vous avez 18 mois pour retrouver un emploi, ben c'est normal, vous prenez votre temps, vous vous dites j'ai le temps, je peux être un peu plus confortable, etc. Le problème, c'est qu'on voit dans les études qu'au bout de 12 mois, ça devient beaucoup plus difficile de retrouver un emploi parce que les employeurs sont beaucoup plus méfiants, se disent bah ça, vous êtes déconnecté du marché du travail depuis un moment et donc on a plus de, ils ont plus tendance à ne pas vous reprendre.
Je suis pas sûre qu'on vous mettra d'accord sur cette idée qu'il faut une incitation. Voilà, là il y a vraiment débat. Est-ce qu'on peut avancer et se demander si vous avez parlé d'une réforme politique, est-ce qu'il y a, il y a quand même des économies à la clé, Henrik Bonnet?
Oui, il y a des économies. C'est vrai que c'est une réforme qui est assez efficace pour faire des économies. Celles qui ont été menées actuellement, ils ont déjà permis de faire des économies de quelques milliards. Selon l'UNEDIC, quand ces réformes vont être à plein régime, on va être à environ 7,6 milliards. Donc, il y a des économies à la clé. Après, moi, ce que je demande, c'est qu'en ayant observé Emmanuel Macron depuis 7 ans, j'ai le sentiment que pour lui, le déficit 3%, pour lui, c'est pas quelque chose de très important. Et par exemple, en janvier, il avait promis des baisses des impôts d'environ 2 milliards. Et ça ne m'étonnerait pas que maintenant, peut-être, il mène ses réformes. Il insiste sur le déficit, mais s'il voit qu'en 2025, 2026, le déficit public, il est vers 4%. Donc, il va mener des baisses d'impôts. Donc, dans une certaine manière, c'est tout à fait possible qu'avec en touchant les chômeurs, on est en train de financer ces baisses d'impôts. En même temps, on finance les baisses d'impôts qu'il y a eu pendant le premier mandat d'Emmanuel Macron sur la flat tax ou l'impôt sur la fortune. Et aussi, on justifie des politiques qui sont pour lesquelles peut-être on pourrait faire beaucoup plus d'économies, comme ce sont les aides aux entreprises et même la politique sur l'apprentissage, qui est une politique très intéressante, mais qui coûte beaucoup. C'est environ 20 milliards. Et moi, j'ai le sentiment qu'on touche beaucoup plus vite les chômeurs au lieu que les apprentis, parce qu'on a une représentation idéologique des chômeurs et des apprentis très différente. Quand on pense aux chômeurs, on pense aux étrangers, quelqu'un blanc, alors que finalement, les chômeurs, ils peuvent être tout le monde, même si c'est vrai qu'il s'agit surtout des ouvriers et des jeunes.
Marc Vigneault. Bah, est-ce que les chômeurs sont des boucs émissaires et qui permettent de faire... Et on pourrait aussi demander des efforts à d'autres, par exemple aux entreprises.
Alors c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de baisses d'impôts depuis le début du quinquennat d'Emmanuel Macron qui ont creusé le déficit public. Enfin, il y a surtout eu beaucoup de dépenses publiques, énormément de dépenses publiques. Par exemple, il y a eu un plan d'investissement dans les compétences, on oublie. Hein, c'était 15 milliards sur 5 ans, ça a été reconduit. On met beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent sur la formation des chômeurs. Donc quand on fait ce débat, on oublie toujours de regarder l'image générale. Est-ce qu'on fait quelque chose pour former les chômeurs? Je dis pas que ce plan, il a été très efficace. Il y a des études qui ont montré que c'est pas assez ciblé, que les formations sont pas d'assez bonne qualité, etc. Mais on a mis aussi plus de 2 milliards sur le compte personnel de formation qui bénéficie beaucoup plus aux gens peu qualifiés qu'avant. Qu'est-ce qu'on n'avait pas entendu sur cette réforme? Sur on va passer des heures sur le compte de formation en euros, ça va être défavorable aux peu qualifiés. Bah, c'est exactement l'inverse qui s'est passé. Donc en fait, c'est tout ça. Évidemment que la réforme de l'assurance chômage ne va pas à elle seule réduire le chômage. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait à côté? Il y a une réforme du lycée professionnel dont personne ne parle parce que ça ne concerne pas les enfants de cadre. 630 000 jeunes
ici,
qui
Marc.
Sortent, ou enfin, on en parle très très peu dans les médias, pardon.
Non,
et par ailleurs, la question, c'est est-ce que cette réforme va être efficace? Donc, moi, je demande à voir. Je ne dis pas que cette réforme va être efficace. Je demande des preuves. Mais c'est tout ça qui va faire qu'à la fin, on va baisser éventuellement le chômage. Mais crier au scandale parce que la France va peut-être revenir à peu près dans la moyenne européenne. Alors oui, dans une période où ça serait pas idéal, c'est pas idéal, il faudrait le faire quand ça va un peu mieux, mais on a beaucoup d'économies sur la dépense publique à faire et je rappelle qu'à l'UNEDIC, il y a encore une dette de 55 milliards et donc normalement c'est équilibré sur la durée d'un cycle ça. Donc c'est pas du tout équilibré ces modèles sociaux et après on nous dit qu'il faut investir dans la transition énergétique.
Les 30 dernières secondes pour Henrik Bonnet parce que c'est un débat.
Moi je pense c'est pas une question de crier au scandale. Mais c'est un peu le sentiment d'un gouvernement français qui parfois paye trop de l'idéologie. Depuis, par exemple, donc on parle que Emmanuel Macron il a augmenté la dépense publique, mais si on prend pas en compte la pandémie, que c'était quelque chose de très exceptionnel, c'est le président qui a augmenté moins la dépense publique par rapport à François Hollande ou Nicolas Sarkozy. Et sur certains aspects, moi je trouve que c'est un gouvernement très idéologique. Par exemple, au lieu de toucher le chômage, on pourrait très facilement on pourrait trouver des recettes sur les entreprises de l'énergie ou la banque ou l'Espagne.
Il va falloir le faire de toute façon.
3 milliards. Et la France, la contribution solidaire sur le pétrole, c'est seulement 200 millions, ce qui est presque ridicule.
Henrik Bonnet et Marc Vigneault, un bon débat ce samedi 30 mars. 9h32 sur France Inter. Dans moins de 10 minutes, l'invité du Mag Éco, c'est le PDG de Thales, Patrice Kane. On passe à un autre sujet. On va poser des questions sur notre capacité à nous défendre sur le plan militaire et civil. Il sera donc question de cybersécurité quelques jours après le vol de données à la Fédération française de foot, quelques semaines après celui massif chez France Travail. Les administrations sont touchées, les associations, les ménages, les entreprises, bien sûr, même si elles préfèrent rester discrètes. Le phénomène est en expansion et il se sophistique. On voit désormais les escrocs utiliser l'intelligence artificielle, travailler sur les images, la voix. À quoi ça ressemble? Eh bien, ce matin, notre reporter Anaëlle Verzo nous propose une expérience de cyber-escroquerie. Ça ressemble à de la science-fiction, hein, mais c'est déjà la réalité. Et je vais vous dire, dans l'équipe, on n'était pas prêts.
Allô?
Bonjour, Anaëlle Verzo?
Oui.
Bonjour Mathieu, Orange, je vous dérange pas?
Non, vous ne me dérangez pas.
Je vous appelle parce que je vois que vous êtes toujours sur de l'ADSL chez nous, c'est bien ça?
Oui, tout à fait, je suis sur de l'ADSL, absolument.
Aujourd'hui, on fait des offres fibre optique beaucoup moins chères et du coup plus performantes. Et si je dis pas de bêtises, je vois que vous consommez beaucoup de données. Vous travaillez beaucoup de la maison ou pas?
Oui, je consomme beaucoup. Enfin, je suis très connectée à Internet depuis chez moi.
D'accord, ce serait moins cher, vous verrez, ce sera beaucoup plus performant, vous aurez la TV avec.
Vous l'avez sans doute deviné, peut-être même déjà vécu. Le nom Orange s'est affiché sur l'écran de mon téléphone, j'ai donc décroché. Mais il ne s'agit pas d'un appel de l'opérateur, c'est un piège. Le faux conseiller est un hacker. Enfin, il aurait pu l'être. Il s'agit là d'une simulation avec Mathieu, un expert en cybersécurité.
Donc Mathieu Diric, je travaille donc chez F5. On est spécialisé dans la cyberdéfense, cybercriminalité. On déploie chez nos clients des solutions de protection.
Il nous explique comment, avec un simple appel, il va pouvoir usurper mon identité et me dérober de l'argent.
Donc là, j'ai récolté une petite minute de votre voix, de votre intonation, de vos expressions. Alors, je vais nourrir un moteur d'intelligence artificielle dont le but est de répliquer votre voix à ma demande et en temps réel. Je vais avoir un outil dans lequel je vais parler et il va transformer ma voix dans votre voix.
Par exemple, si vous appelez ma responsable RH, ressources humaines, vous pouvez lui demander quoi?
Par exemple, la première chose que je ferais, je dirais, Monique, est-ce que c'est possible que tu mettes à jour mon IBAN pour mes virements? Je viens de changer de banque parce que j'ai acheté un nouvel appartement et du coup, on a ma banque, ce nouvelle banque avec un IBAN, est-ce que je peux te l'envoyer maintenant? Elle va répondre, bien sûr, pas de problème, Anaëlle, envoie-moi-le à mon adresse email. Et là, en utilisant un autre système pour pouvoir falsifier le email, c'est extrêmement facile, on le fait depuis plus de 20 ans. Je vais envoyer un email à Monique avec mon IBAN à moi, le hacker, avec mon numéro d'IBAN. Par contre, ce sera écrit en dessous votre nom et votre adresse. La RH, il n'y aura que du feu. Parce qu'elle a eu confiance, elle m'a parlé il y a 5 minutes. Enfin, elle a parlé à Anaëlle il y a 5 minutes.
Et c'est vous qui allez percevoir tous mes salaires?
Exactement, ça tombera dans une banque quelque part. Jusqu'à ce que vous vous en rendiez compte. Normalement, le premier mois, on s'en rend compte.
Alors Mathieu, ce que vous venez de me faire, ça s'appelle, je crois, le vishing, c'est-à-dire le hameçonnage par la voix.
Exactement. C'est très récent, ça a moins, on va dire, moins d'un an. Et du coup, ça peut être aussi poussé encore plus loin. On a aussi la possibilité de le faire avec l'image. Reprendre la photo d'un dirigeant d'entreprise assez connu qui est sur YouTube ou à la télé, on va pouvoir récupérer son image. On va la rentrer dans une IA, sauf qu'on va démarrer une visioconf, un Zoom, un Teams, comme on fait tous au travail. Sauf que, au lieu que la caméra filme une vraie personne, la caméra diffuse une vidéo avec une personne qui, en fait, n'est pas la vraie, avec le son aussi. Donc là, on est sur un mix entre de l'image et du vishing avec la voix. Et donc là, on voit qu'à Hong Kong, en tout cas, voilà, il y a eu 25 millions de dollars de volés. La personne qui était connectée dans cette visioconf était la seule vraie personne. Il pensait être avec son directeur général, son directeur financier et le banquier.
Et
aucun des trois n'était vrai.
Sauf l'employé qui s'est fait avoir.
Sauf l'employé qui a appuyé sur le bouton et qui a fait le virement.
25 millions de dollars détournés par cette méthode de vishing associée au deepfake. Cet hyper-trucage d'images réalisées avec de l'intelligence artificielle touche les entreprises, mais aussi des personnalités. On a par exemple vu circuler des photos du pape en doudoune blanche XXL et des avatars d'Emmanuel Macron et du général de Gaulle, avec lesquels 100 000 internautes ont pu dialoguer sur Twitch. Dans le calendrier, le test majeur, c'est les Jeux Olympiques cet été.
Je suis le général Patrick Perrotte, je suis conseiller IA auprès du commandement du ministère de l'Intérieur dans le cyberespace.
À la Gendarmerie nationale, le général Patrick Perrotte s'y prépare.
Les attaques cyber ne font que croître.
Il dirige un groupe de 10 spécialistes de l'IA dans le cyberespace.
Aujourd'hui, on est dans un contexte quand même particulier en cette année 2024. Il ne vous aura pas échappé qu'on a un événement planétaire cet été, les Jeux Olympiques. On a les élections européennes. Ce qui fait qu'effectivement, notre territoire peut être sujet à certaines attaques d'activistes qui seraient capables aussi de hacker les systèmes importants.
Comment vous vous préparez ?
L'IA, si vous voulez, constitue à la fois le remède et le poison. Ce à quoi nous travaillons, nous, c'est à la détection de ces impostures, de ces deepfakes. Donc typiquement, on a généré des fausses images par les méthodes potentiellement employées par les délinquants. L'objectif pour nous, c'est d'apprendre à notre intelligence artificielle qu'est-ce qu'un deepfake image. Il verra une nouvelle image créée par l'une de ces méthodes, il sera capable de la caractériser comme une imposture. Et ce type d'approche, on l'a également fait sur l'audio, on l'a également fait sur le texte. La difficulté, c'est qu'il y a une multitude de méthodes. Donc dès lors qu'on n'est pas sur une des méthodes sur lesquelles on a appris notre système, nos performances chutent. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on est en train de travailler. Et ce qui est important pour les forces de sécurité intérieure, c'est de ne pas se perdre dans de la recherche fondamentale, mais de ne pas perdre la distance par rapport aux évolutions criminelles. L'enjeu de la réglementation, de la législation est un enjeu fondamental. On a l'AI Act qui vient d'être adopté, qui a vocation à définir des classes de risques pour chacune des applications d'intelligence artificielle et d'associer un certain nombre de mesures à prendre par les développeurs, par les fournisseurs, en fonction du risque du système utilisé. Aujourd'hui, ce texte est relativement équilibré. On a beaucoup œuvré de façon à ce que ce texte ne génère pas une asymétrie entre les opportunités criminelles et les capacités de riposte des forces de sécurité intérieure. Mais il est évident aujourd'hui que la réglementation comme la législation doit également accélérer son rythme pour être à la hauteur des enjeux et des défis de l'IA dans le champ de la sécurité intérieure.
Comment l'IA peut-elle lutter contre les risques cyber liés à l'IA ? C'était le thème du Forum européen InCyber qui s'est tenu à Lille cette semaine. 17 000 visiteurs, 700 exposants, des entreprises, des start-up et des institutionnels. Après un tour dans les stands, je retrouve Guillaume Tissier, le directeur du Forum.
On a vu depuis deux ans un véritable déferlement des intelligences artificielles dites génératives. Elles sont utilisées par les attaquants de deux façons, soit parce qu'ils exploitent les vulnérabilités de ces IA pour lancer des attaques, soit qu'ils utilisent ces IA pour automatiser, accélérer le rythme de leurs attaques, pour avoir des codes malveillants qui vont se reconfigurer très rapidement et qui, en fonction de l'environnement et de la cible sur lequel ils auront été lancés, vont se reconfigurer pour leurrer les systèmes de détection adverses. Alors les attaques utilisant de l'intelligence artificielle vont se multiplier. Le meilleur exemple, c'est ce qu'on appelle les deepfakes. Ces deepfakes ont augmenté de 3000% en 2023 et vont se démocratiser puisque ces technologies sont finalement disponibles, faciles à utiliser. Et donc le nombre d'arnaques va se multiplier. Le défi, en fait, c'est le passage à l'échelle. C'est le fait de passer d'une cybersécurité centrée sur les organisations à une cybersécurité beaucoup plus large, touchant aussi les PME, touchant évidemment les particuliers.
J'arrive maintenant devant le stand de l'ANSSI.
Bonjour, je m'appelle Vincent Strubel, je suis directeur général de l'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.
Pour lui, il n'y a pas de raison de s'alarmer.
Alors, les attaques liées à l'IA, on entend des discours très anxiogènes sur ce sujet qui donnent à penser que ça va décupler les capacités des attaquants. Moi, je ne partage pas cette vision-là. Ça va faciliter la tâche des attaquants pour mener les mêmes attaques que ce qu'ils font déjà. Envoyer des emails pour inciter des utilisateurs à cliquer, à ouvrir une pièce jointe qui est malveillante, qui infecte ensuite l'ordinateur. Ce sera la même logique, ce sera peut-être plus facile pour les attaquants, mais les manières de s'en protéger seront les mêmes.
Cybersécurité, l'intelligence artificielle, un cauchemar et un rempart. C'était le reportage d'Anaël Verzo.
France Inter, on n'arrête pas l'écho. Alexandra Ben Saïd.
Et l'invité d'On n'arrête pas l'écho dirige l'un des cinq leaders mondiaux de la cybersécurité. Bonjour Patrice Ken.
Bonjour.
Vous êtes le PDG de Thales, entreprise de haute technologie et de défense qui travaille sur le civil et le militaire. Vos deux actionnaires, ce sont l'État et la famille Dassault. Alors les cyberattaques, les demandes de rançon, le hameçonnage, le phishing, tout ce phénomène est en croissance. On l'a encore vu avec le vol massif de données de France Travail. Est-ce que ces grandes agences institutionnelles, est-ce que les PME, est-ce que les collectivités locales sont en particulier en retard face à la menace ?
En tout cas, les choses progressent, vont plutôt dans le bon sens. Effectivement, on partait d'une situation, il y a une dizaine d'années, où la prise de conscience était relativement faible, si je puis dire, pour notamment les PME ou certaines administrations aussi, hein. Voilà, on progresse. Maintenant, la menace aussi progresse. Et il faut, je dirais, de manière permanente, en fait, hein, continuer à relever son niveau de défense, si je puis dire, pour se prémunir de ces attaques qui explosent.
Quand vous dites la menace progresse, c'est exponentiel ?
Elle progresse en volume et en sophistication. Pour vous donner un exemple, de plus en plus, on voit des agents dormants, comme on le voyait au temps de la guerre froide, si je puis dire. Sauf que c'est pas des agents physiques, ce sont des agents logiciels qui rentrent dans vos systèmes à un moment donné, il y a une faille. Et puis, ils vont rester inactifs pendant un an, deux ans, trois ans, et se réveiller à un moment donné et commencer à attaquer vos systèmes d'information.
Alors, ce qu'on sait lorsqu'il s'agit d'attaques sur des élus, sur des États, c'est qu'il y a sans doute d'autres États derrière, et souvent les suspects habituels, ce sont la Russie et la Chine. Mais quand on parle d'extorsion, quand on parle d'escroquerie, est-ce qu'on en sait plus sur les cybercriminels ?
J'ai envie de dire, c'est pas les attaques les plus sophistiquées, effectivement. Celles qui sont, je dirais, les plus pernicieuses sont souvent attribuées à des États. Alors, on a un peu de mal à savoir. En tout cas, une entreprise comme Thales, c'est pas à nous de le dire, hein. C'est plutôt aux autorités en charge de ces questions-là. Maintenant, c'est vrai que tout ce qui est deepfake, hameçonnage, ransomware, il y a beaucoup, je dirais, de choses qu'on peut éviter juste par son bon sens. Ce qu'on appelle la fraude au président est très développée, si je puis dire. On en est régulièrement, non pas victime, mais il y a régulièrement des tentatives de fraude au président dans nos groupes, dans les entreprises.
Alors, rappelez de ce dont il s'agit pour ceux qui n'ont pas eu affaire à une fraude au président.
Vous vous faites appeler, alors ça peut être le président lui-même, ça m'est arrivé, ou effectivement un sosie du ministre de l'armée, des armées de l'époque, hein, Jean-Yves Le Drian, se faisait passer pour le ministre, je trouve que je le connais personnellement bien, donc j'ai rapidement, je dirais, déjoué la supercherie. Mais c'est aussi, par exemple, quand le service comptable ou un patron de filiale à l'étranger se fait contacter, plutôt par mail d'ailleurs, soi-disant par Patrice Kane, le PDG du groupe, on travaille sur une opération très secrète, il faut verser des fonds à un cabinet d'avocats, et il faut en parler à personne. Voilà, un peu de bon sens nous fait dire que ou fait comprendre à cette personne que c'est pas tout à fait normal et ne le fait pas, mais effectivement certains tombent dans le panneau.
Alors là, il s'agit en effet d'escroquerie presque simple, mais vous l'avez dit, il y a une sophistication qui arrive et c'est tout le sujet du reportage. Jusqu'où l'intelligence artificielle change la donne pour la cybersécurité, et la question sans doute est la même pour l'ordinateur quantique.
Alors pour l'intelligence artificielle et notamment celle appelé l'IA générative, donc qui génère des textes, des images, des photos, des vidéos.
C'est ChatGPT.
ChatGPT pour le texte, et puis il y a tout un tas d'équivalents effectivement pour d'autres contenus, d'autres types de contenus. Je dirais, donne accès au plus grand nombre, finalement, au deepfake. Avant, on pouvait faire des deepfakes, ça existait déjà, avant l'IA générative, mais il fallait déjà être un petit peu, je dirais, féru d'informatique pour faire ce genre de choses. Là, effectivement, ce qui est ennuyeux, si je puis dire, c'est que ça donne accès au plus grand nombre, de manière assez facile, sans être un expert informatique, la capacité de confectionner, de fabriquer un deepfake, et puis de tromper tel ou tel.
Et l'ordinateur quantique ?
En fait, l'ordinateur quantique, comme toute technologie, peut être utilisé pour la meilleure des choses et pour des choses qui sont effectivement pas souhaitables. L'ordinateur quantique donnera la capacité à des scientifiques de faire des études scientifiques grâce à une capacité de calcul décuplée. Et ça, c'est très prometteur, c'est très porteur. Mais dans le même temps, le risque principal qui accompagne l'arrivée un jour de l'ordinateur quantique est la capacité de déchiffrer, de casser tous les codes aujourd'hui de chiffrement utilisés par les grandes industries. Et c'est d'ailleurs pourquoi nous avons travaillé, nous, chez Thales, à la mise au point d'un algorithme dit post-quantique, c'est-à-dire qui résiste, alors même que l'ordinateur quantique n'existe pas encore réellement, mais qui est capable de résister à l'arrivée future d'ordinateurs quantiques.
Patrice Kane, je reviens à l'intelligence artificielle. Il y a quelques jours, le comité de l'intelligence artificielle générative a remis son rapport à l'Élysée avec énormément de recommandations, notamment d'investissement, pour que la France puisse espérer faire un jour jeu égal avec les États-Unis et la Chine. Est-ce que ça, franchement, on peut y arriver ?
Alors, ce rapport, j'ai été auditionné, donc je le trouve assez équilibré hein, dans ses conclusions, sachant que en ce qui concerne l'entreprise que je dirige, nous-mêmes, c'est pas tellement l'IA générative dont on a besoin. L'IA pour les systèmes critiques, un système de défense, un satellite, un avion commercial, un système de contrôle de trafic aérien, dès lors que la vie de quelqu'un est en jeu, un passager, un opérateur, on a besoin d'IA qui soit effectivement prédictible, transparente, on en comprenne le résultat, qu'il ne soit pas une boîte noire finalement, qu'il soit fiable aussi, qu'il soit embarquable. Autant de caractéristiques auxquelles aujourd'hui ne répond pas l'IA générative. L'IA générative est une IA dont l'apprentissage s'appuie sur les données, les fameux réseaux de neurones. Et ça, ce sont des IA boîtes noires. Vous ne comprenez pas comment le résultat est formulé. Et donc, elle n'est pas utilisable dans nos métiers.
Mais donc, est-ce qu'un jour, nous pouvons, avec cette autre forme d'IA d'intelligence artificielle que vous me décrivez, est-ce qu'un jour, nous, Français, nous pouvons espérer devenir, être au niveau des GAFAM qui s'intéressent à l'IA?
Mais nous sommes au meilleur niveau mondial. Je crois qu'il faut le dire aux auditeurs. On est au meilleur niveau mondial dans ces domaines. Donc, l'IA hybride, voilà, qui utilise de l'IA symbolique par les règles, par les données, et au-delà de l'IA qui utilise les données. Effectivement.
Est-ce qu'il y a des freins à lever? C'était ça que posait le rapport.
Bah, c'est toujours pareil. Si on veut asseoir un leadership dans la durée, il faut investir. Et il faut investir des sommes très importantes. On a besoin, je pense, d'être accompagné, d'être aidé. Mais c'est toujours pareil. Les autres courent très vite. Il faut courir plus vite qu'eux.
Militaire ou civil, en tout cas, l'intelligence artificielle, c'est une révolution. Et l'an dernier, le créateur de ChatGPT, Sam Altman, que vous connaissez bien, je crois, disait redouter que l'intelligence artificielle mène à l'extinction de l'humanité. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui?
Oh, j'aurais peut-être pas une vision aussi apocalyptique de notre futur, mais vous savez, comme toute technologie, encore une fois, on peut l'utiliser pour la meilleure et la pire des choses. Ce qu'on aujourd'hui dit de l'intelligence artificielle, l'IA générative, on aurait pu le dire de l'énergie nucléaire. Voilà, l'IA, il faut l'encadrer, la réguler. D'ailleurs, l'IA Act est passé au niveau européen. Voilà, je pense que c'est une bonne chose, effectivement, quand ces technologies peuvent avoir des utilisations négatives, de savoir poser un cadre. Ce cadre, pour autant, il doit être équilibré de manière à ne pas décourager les inventeurs, les gens qui viennent avec des bonnes idées.
C'était voilà. Tout le débat. Est-ce que ce texte européen allait décourager les entreprises d'innover? Est-ce qu'on encadrait trop? Vous, quelle est votre opinion?
Je constate qu'il n'y a pas de consensus, clairement, sur la question. On entend tout et son contraire. Je dirais que donnons peut-être sa chance au produit, comme on dit. Hein, voilà. Attendons de voir un petit peu comment, dans la pratique, cette IA est utilisée, et notamment par les instances de régulation. Mais le fait d'avoir une régulation, moi, je trouvais tout à fait nécessaire.
Patrice Kane, vous travaillez, je l'ai dit, également dans le domaine de la défense. Thales est un groupe très important. La moitié de vos revenus proviennent de la défense. Vous avez annoncé jeudi une accélération dans l'intelligence artificielle et justement en particulier dans la défense militaire. On est en train de vivre deux conflits majeurs, l'Ukraine, le Proche-Orient. À quel point l'IA bouleverse aussi la façon de mener la guerre ou va bouleverser? À quel point l'armement que produit Thales intègre de l'intelligence artificielle?
On fait deux types de choses dans la défense, des capteurs et puis des systèmes d'aide à la décision. Alors un capteur, c'est quoi? C'est un radar, par exemple, qui va regarder. Alors on regarde avec des ondes électromagnétiques, pas avec des yeux, finalement, ce qu'il y a dans le ciel. Et aujourd'hui, on a les meilleurs radars au monde. Voilà, tout le monde nous les arrache, si je puis dire. Et comment on va faire? On va les doper, si je puis dire, avec de l'IA pour les rendre encore plus performants. Je vous prends un exemple bien concret. Une des difficultés aujourd'hui que rencontrent même les meilleurs radars au monde, c'est de discriminer les drones des oiseaux. La signature électromagnétique est très proche, voilà. Mais ce qui va intéresser l'opérateur militaire, c'est pas l'oiseau, c'est le drone. Être capable, avec de l'algorithmie, de l'IA, de discriminer les deux, c'est un vrai plus pour l'utilisateur final.
Patrice Kane, chez Thales, vous produisez donc des radars, des fusils, des missiles. Avec le conflit en Ukraine, les commandes sont en augmentation. Alors cette semaine, le ministre des Armées a prévenu les industriels de l'armement. Sébastien Lecornu n'exclut pas de procéder à des réquisitions de personnel, de stock, ou alors d'imposer des priorités par rapport aux commandes civiles pour accélérer la production. Cet avertissement, vous le recevez comment ?
C'était prévu dans la loi de programmation militaire, donc il n'y a pas de surprise, en tout cas pour ceux qui ont suivi les débats au Parlement.
C'est plutôt le coup de gueule qui est peut-être plus inattendu.
Alors, peut-être qu'il s'adressait plus à certains qu'à d'autres. En tout cas, en ce qui nous concerne, on a doublé notre capacité de production de radars. On est passé de 10 à 20 par an. Alors, on reste dans le multi-unitaire. Ce n'est pas de la grande série, on est d'accord. Et on va vers les 30 radars par an. On a embauché, parce que nous, finalement, notre matière première, c'est les cerveaux chez Thales. On a un grand groupe d'ingénierie de technologie. Ces 5-6 dernières années, nous avons embauché 50 000 personnes.
Mais alors si on ne parle pas de Thalès, de quoi parle Sébastien Lecornu? Quel est le sujet pour l'Ukraine et l'armement?
Alors d'abord, c'est une bonne question pour le ministre des Armées, je ne vais pas me substituer au ministre des Armées.
Mais vous connaissez très bien le secteur.
Pour autant, je comprends que le secteur prioritaire aujourd'hui, c'est celui des munitions. Voilà. Donc effectivement, en France, on ne fait pas de munitions, nous Thalès. Hein. Et donc effectivement, là, il y a une urgence particulière, augmenter les cadences. Donc je laisserai l'industriel concerné et le ministre commenter ce sujet particulier.
Alors j'entends un seul industriel concerné. En tout cas, les 27 ont augmenté leur budget défense ces dernières années. C'est un grand virage, mais si on regarde les chiffres, les Européens commandent toujours plus de la moitié de leur matériel aux Américains. Qu'est-ce qu'il faut en conclure, Patrice Kane? La menace russe s'intensifie, mais l'Europe industrielle de la défense, elle est encore loin.
D'abord, je pense que l'Europe a pris une gifle, en quelque sorte, quand la guerre en Ukraine a éclaté. Une gifle au sens où, depuis la chute du mur de Berlin, je pense que les opinions publiques, les gouvernements, considéraient, et sans doute à raison à l'époque d'ailleurs, que nous vivions dans un espace de paix. Et qui était durable. De fait, un certain nombre de priorités ont été réorientées de la défense vers des secteurs très nobles, la médecine, l'éducation, la santé, la culture. Aujourd'hui, force est de constater qu'un certain nombre de gouvernements revoient leurs priorités. Nous ne pouvons plus considérer que la paix est, je dirais, quelque chose d'acquis, malheureusement, si je puis dire, en Europe. D'où le fait de réinvestir. Alors la France, d'ailleurs, avait commencé avant la guerre en Ukraine. Bon, l'inflexion, moi, je la vois à peu près en 2015, effectivement, avec les attentats du Bataclan. Elle a accéléré, c'est vrai, en 2017, avec le président Macron, et à nouveau en 2022, avec la loi de programmation militaire. Les autres pays européens, c'est vrai, partaient de beaucoup plus bas, et ont décidé d'accélérer. Maintenant, quand vous regardez en pourcentage des pays comme la Pologne, c'est très impressionnant. En valeur absolue, ça reste très modeste. Construire une industrie européenne de défense, c'est nouveau. C'est vrai que c'est un souhait politique relativement récent. Et d'ailleurs, il y a eu une déclaration, là aussi, du commissaire Breton, de la présidente von der Leyen, pour que, effectivement, l'Europe devienne autosuffisante en capacité militaire d'ici une dizaine d'années. On a dit, je crois, au moins 50%.
C'est possible ?
C'est même possible dès aujourd'hui. La France est autosuffisante à 99,9%.
Patrice Kane, ce qui fait aussi l'actualité, c'est le déficit des finances publiques qui dérapent. Alors, on a la majorité qui se divise sur les efforts à demander aux entreprises. Est-ce qu'il faut repousser une nouvelle baisse des impôts de production? Est-ce qu'il faut taxer les rachats d'actions? Est-ce qu'il faut orienter les milliards du crédit impôt recherche plutôt vers les petites entreprises alors que ce sont les plus grandes aujourd'hui comme Thalès qui captent la majeure partie du crédit impôt recherche? Vous répondez quoi, vous, à ceux qui suggèrent toutes ces pistes?
Je pense que la première des choses à faire, c'est de voir où est-ce qu'on peut faire des économies. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait à la maison. On regarde où sont nos priorités, est-ce que je vais plutôt aller au cinéma ou payer les études de mes enfants. Voilà. Donc effectivement, est-ce qu'on veut investir pour l'avenir, continuer à investir dans la recherche, et à investir dans la compétitivité de nos entreprises, plutôt que de faire d'autres choses? C'est vraiment une responsabilité gouvernementale. Moi, je dis simplement, et là aussi, en tant que France Industrie, si je puis dire, dont j'assure la vice-présidence, il faut absolument qu'on conserve, je dirais, la compétitivité de l'entreprise France. On sait que sur des sujets, nous sommes moins compétitifs que l'Allemagne, par exemple. C'est le cas des impôts de production. Si les entreprises le disent, c'est parce que c'est une réalité. Le crédit d'impôt recherche est un formidable atout que tout le monde nous envie. Pourquoi diable, en France, on considérait que c'est un inconvénient? Elle permet ce crédit d'impôt recherche, c'est pas un cadeau aux entreprises. Ça permet de conjuguer deux choses.
Il y a des rapports quand même assez mitigés sur les résultats.
C'est vrai, mais pour autant, c'est pas mon appréciation. Ça permet de conjuguer deux choses. Une excellence académique que nous avons en France, c'est vrai, nous faisons de la recherche de très bon niveau, avec une excellence de compétitivité. Il faut qu'on ait une recherche excellente d'un point de vue économique, mais qui soit aussi compétitive. Ce crédit d'impôt recherche permet à la très grande majorité des entreprises de l'être. Alors, on va peut-être trouver un ou deux cas d'espèce où on va se dire, bon, est-ce que vraiment c'est utile? Mais dans sa très grande majorité, le crédit d'impôt recherche, il remplit les objectifs pour lesquels il a été imaginé il y a des années de cela.
Donc vous dites, mauvaise piste, pas touche, arrêtez. Il ne faut pas que les entreprises participent à renflouer les caisses de l'État.
Vous savez, les entreprises, elles payent déjà beaucoup d'impôts. L'impôt des sociétés, sur les sociétés, les charges sur les salaires, la taxe professionnelle, etc. Donc, encore une fois, Bon, je ne me mets pas dans la place du gouvernement, l'équation est certainement difficile. Si c'était facile, ils auraient trouvé la recette. Moi, je dis simplement, ne sacrifiez pas l'avenir, l'investissement. Ce qui fera que nos enfants, demain, auront encore du travail en France, c'est qu'il y aura des entreprises pour les embaucher.
Patrice Kane, le PDG de Thales, merci d'avoir accepté l'invitation.
Merci beaucoup.
On n'arrête pas l'écho. Sur France Inter.
L'écho à la page, c'est Christian Chavagneux qui nous fournit avec les livres les plus importants du moment sur les sujets économiques. Alors Christian, l'intelligence artificielle, vous l'avez dévoré en librairie.
Ouais, tout à fait, avec un livre de Marion Carré qui a voulu effacer Alice Rocock, sous-titre important sur les traces d'une pionnière oubliée de l'intelligence artificielle, c'est chez Fayard. Tout est dans le sous-titre. Vous vous rappelez peut-être, Alexandra, que vous avez interviewé Camille Desjardins sur ses patronnes du XVIIIe siècle oubliées. Et là, on est dans le même principe, réécrire l'histoire du capitalisme français en mettant en avant des femmes qui ont joué un rôle clé, mais complètement oubliées. Alice Rocock, c'est une ingénieure haut de gamme. Premier ordinateur de fabrication française, elle est dessus. Dans les années 50, elle travaille dans une société qui rivalise avec IBM, il faut le savoir. Malheureusement, la société va avoir quelques problèmes, notamment parce que l'INSEE va choisir IBM plutôt que sa société. Mais la voilà qui travaille pour C2I, pour C2I Honeywell, tout ce qui fait le top de l'informatique française. Ces ordinateurs vont être utilisés pour Ariane, pour les télécoms, pour le réseau électrique, pour des applications militaires. Elle est la première à penser les ordinateurs en réseau. Elle est la première à penser, dès le début des années 80, l'intelligence artificielle. Un modèle de femme oubliée, salué à juste titre dans la préface par la grande historienne Michèle Perrault.
Alors votre coup de cœur, c'est une autre histoire, hein, mais on va dire que c'est plutôt l'histoire d'un transfuge.
Ah oui, alors c'est Marc Verret, un cadre en révolte chez Duno. Alors il y a les bouquins d'écho de grandes idées, il y a les bouquins de témoignages. Et moi, ce que j'ai aimé dans ce bouquin, c'est le témoignage à hauteur d'homme d'un gars qui rentre chez EY, le grand cabinet d'audit et de conseil, et qui se dit, bon, je vais passer 5-6 ans, ça va être difficile, il faut travailler beaucoup, mais je me fais une bonne expérience, je me fais un carnet d'adresses et après je sors. Et c'est pas du tout ce qu'il découvre chez EY. Mmh. Ce qu'il découvre, c'est vraiment un travail très taylorisé, tant d'heures pour chaque mission. Si vous dépassez les heures, eh ben, on dépasse la facturation, ça va pas du tout. Comment on fait? Parce qu'il y a trop de missions, ben, faut travailler le soir, faut travailler le week-end, faut travailler pendant les vacances, ben, bref, faut travailler tout le temps. Et comme ce sont des cadres forfaits annuels, ils sont payés tant d'heures, s'ils dépassent, c'est des heures gratos. Alors la santé des salariés est complètement dégradée, mais la rentabilité complètement assurée. Face à ça, il y a des gens qui, au bout de 2 ans, la moitié de sa promo est partie. À démissionner. Et lui, il décide de se mobiliser, il devient délégué CGT avec des négociations atroces avec la direction qui arrive à faire sauter le maximum de 48 heures de travail hebdomadaire par semaine. Je croyais que c'était illégal, mais on arrive à le faire. Et lui, il se bat. Et il se bat en faisant quoi? En alertant les journaux. Selon nos confrères de BFM Business et du Figaro qui vont mettre son histoire en avant, la stratégie continue. Il fait un livre, il nous raconte les conditions de travail dégradées chez EY. À lire.
Christian Chavagneux, l'écho à la page.